La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, l'antenne vous appartient, RFI vous donne la parole dans 30 minutes. Nous lancerons le débat sur le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire après la décision de la Cour pénale internationale de libérer sous condition l'ancien président Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Les militants, vous les avez entendus sur notre antenne, ont certes laissé éclater leur joie, mais ils affirment que la réconciliation nationale ne sera possible qu'une fois Laurent Gbagbo rentrer au pays. Réconciliation, le mot a également été prononcé plusieurs fois jeudi soir, lorsque 54 proches de l'ex-président ivoirien, dont plusieurs anciens ministres, ont décidé de rentrer au pays après 8 ans d'exil. Alors la réconciliation nationale est-elle à portée de main en Côte d'Ivoire? On a envie de vous entendre, vous qui êtes sur place, à Abidjan, à San Pedro, à Gagnoa, dans les autres villes du pays, à Boaké. Appelez-nous, témoignez, racontez-nous comment vous ressentez cette réconciliation qui est en marche. 33 9 693 693 70. Vous continuez à réagir sur la page Facebook de l'émission, mais aussi sur nos différents comptes, notamment le compte WhatsApp. Je vous donne ce numéro, notez-le, il est compliqué à retenir. Notez-le et enregistrez-le. 33 6 89 28 53 64. Mais d'abord, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. On va parler de l'élection présidentielle du 24 février au Sénégal. Bonjour Diabaté.
Bonjour, bonjour RFI.
Vous nous appelez d'Abidjan, on vous écoute.
Élection présidentielle au Sénégal. Dernièrement, l'opposante Aïssa Tall Sall a rallié la coalition au pouvoir de Macky Sall. Je voudrais savoir quel est le poids de ce ralliement en faveur du président Macky Sall.
Oui. Oui, c'est ce qu'on appelle la transhumance politique. Bonjour Guillaume Thibault.
Bonjour à tous.
Correspondant permanent de RFI au Sénégal, la transhumance politique, rappelons-le, ça consiste à quitter son parti politique pour un autre. Et ce phénomène a été particulièrement important ces derniers jours. C'est à la fois bon pour ramener des voix, mais c'est aussi un coup au moral pour les adversaires.
Tout à fait, Juan. À 3 semaines du vote du premier tour de cette élection présidentielle ici au Sénégal, Aïssata Tall Sall, c'est un peu l'incorruptible, toujours en première ligne pour dénoncer les abus des politiques, des élites, avocates, militantes, féministes. C'est l'une des personnalités, on peut le dire, les plus respectées du pays, qui a à maintes reprises dénoncé cette transhumance. Il y a des vidéos justement d'elle qui sont reprises sur les réseaux sociaux, qui estimait même à un moment qu'il fallait une loi pour l'interdire. Et qui a déclaré qu'elle rejoignait Macky Sall la semaine dernière, car il représente, d'après elle, d'après sa coalition, le meilleur avenir pour le Sénégal. Maire de Pau d'Or, dans le nord du Sénégal, c'est à l'est de Saint-Louis, Aïssata Tall Sall va donc apporter, et c'est le plus important pour le candidat Macky Sall, sa base électorale. Il y a plus de 200 000 inscrits sur les listes dans cette ville, dans la ville qu'elle dirige. Pour avoir un élément de comparaison, Rouen Dakar compte 660 000 électeurs.
Ah oui.
Rallier une personnalité aussi puissante qu'Aïssata Tall Sall, c'est aussi ramener un savoir-faire politique, forcément, des éléments sur les opposants. Et c'est en effet, on peut le dire, un coup de bambou pour les adversaires politiques de Macky Sall.
Oui, farouche adversaire du président sortant, elle est donc désormais une alliée de Macky Sall. Vous aviez une autre question, Diabaté?
Oui, Juan. Que pensent les 4 autres candidats de ce ralliement?
Oui, un ralliement qui est d'ailleurs très critiqué sur les réseaux sociaux, qui pose de nombreuses questions. Guillaume, Thibault, ils sont 4, hein, 4 opposants à faire face à Macky Sall. Madi Kenyan, Ousmane Sonko, Issa Sall et Idrissa Seck ont-ils réagi?
Alors bien évidemment, ils ont dénoncé ce ralliement, mais il faut le dire aussi, pour l'opposition, la donne, elle est bien différente. Déjà, il faudrait être un petit peu fou, on peut le dire, pour quitter aujourd'hui la majorité et rejoindre cette opposition qui, depuis près de 3 mois, il y a des discussions pour essayer de mettre en place une sorte de stratégie commune face à Macky Sall. L'idée, c'est de reproduire ce que les Sénégal a déjà connu, avoir l'un de ces 4 candidats au second tour et se rallier. C'est comme ça qu'Abdoulaye Wade et l'actuel président ont été élus. 22 prétendants à la présidentielle ont vu leur dossier rejeté par le Conseil constitutionnel. C'est ce qui explique, Juan, aussi cette année l'importance de la transhumance. Mais ce qui va sans doute peser, ce sont surtout les choix que feront Karim Ouad et Khalifa Sall. Eux, ils n'ont pas pu être candidats parce qu'ils ont des déboires judiciaires. Ils n'ont pour le moment donné aucune consigne de vote. Et les tractations continuent. Ceux qui auront leur voix, ceux qui auront l'appel à voter pour eux de la part de Karim Ouad et de Khalifa Sall, gagneront forcément des points le jour du scrutin.
Et on en parlera évidemment demain avec les auditeurs de RFI. Ce sera notre débat du jour. Voilà pour l'analyse de Guillaume Thibault. Diabaté, a-t-on répondu à vos questions ?
Parfaitement.
Parfaitement. J'en profite, Guillaume Thibault, pour rappeler que depuis hier et durant toute la campagne électorale, vous sillonnerez les routes sénégalaises pour un grand tour du pays, de Tambacounda à Dakar, en passant par Saint-Louis, Touba ou encore Kaolack, où vous vous trouvez ce matin. L'idée, en deux mots, Guillaume Thibault, c'est d'aller à la rencontre des électeurs.
Exactement, essayer de faire vivre cette campagne électorale qui a débuté ce dimanche dans les campagnes, essayer de faire cette grande boucle du Sénégal pour entendre ses électeurs, ses électrices. On reste souvent un petit peu focalisé sur Dakar, on nous le reproche, donc là on a essayé de prendre les devants. On va faire de la radio, on va être en direct tous les jours dans Afrique Midi jusqu'à vendredi. Et puis je suis accompagné par un très grand photographe, Sylvain Charkaoui, qui va lui justement alimenter, nous faire vivre cette campagne sur les sites internet de RFI.
Voilà, les photos de Sylvain Charkaoui qui seront postées tout au long de la journée sur le compte Instagram de RFI. Et puis en fin d'après-midi, tous les jours, un diaporama sonore réalisé à partir de vos reportages, Guillaume Thibault, et des photos de Sylvain Charkaoui seront publiées sur les différents supports numériques de RFI. Merci Guillaume. Thibault, bonne route. On vous suivra évidemment et on sera à l'écoute tous les jours. Il est 8h17 au Sénégal. On repasse au standard 33 9 693 693 70. Bonjour Apollos.
Bonjour Jean Gomez.
Alors vous avez des questions sur les avantages accordés aux ministres du gouvernement sortant en République démocratique du Congo.
Évidemment. Le gouvernement sortant de la RDC a pris des décrets en faveur de ses collaborateurs en novembre 2018. En quoi consiste-t-il ? Face aux contestations de la population, le président Félix pourra-t-il les abroger ?
Bonne question, effectivement. C'est vrai que ces décrets font polémique. Une retraite dorée accordée au Premier ministre et tous les membres du gouvernement sortant une fois qu'ils auront quitté leurs fonctions. Bonjour Patient Ligaudy.
Bonjour Juan.
Vous êtes l'un des correspondants de RFI à Kinshasa. Alors quels sont les avantages accordés dans ces deux décrets ?
Dans ces décrets publiés au journal officiel le 15 décembre, il est reconnu aux anciens premiers ministres à charge du trésor public une indemnité mensuelle estimée à 30% des émoluments du premier ministre en fonction, une indemnité mensuelle des logements estimée à l'équivalent de 5 000 $ américains. Ce décret octroie également à un ancien premier ministre un véhicule renouvelable tous les 5 ans, un titre de voyage par an en business class sur les réseaux internationaux pour lui, son conjoint et 16 enfants mineurs, un passeport pour chaque membre de sa famille et des soins médicaux au pays et à l'étranger, des funérailles officielles pour eux-mêmes et une garde sécuritaire de 2 à 3 policiers.
Oui, voilà donc pour les anciens premiers ministres. Il y a un autre décret qui, lui, concerne les autres membres du gouvernement.
Hormis le Premier ministre, tous les autres membres du gouvernement sont couverts par ce décret qui leur reconnaît une indemnité mensuelle estimée à 30% des émoluments de ceux en fonction. Une indemnité, il faut le dire, qui quand même pose un problème depuis qu'on a publié ces décrets. Il y a également cette indemnité mensuelle de logement estimée à 1 000 $ américains. Un titre de voyage par an en business class sur les réseaux internationaux, un passeport diplomatique également et des soins médicaux au pays comme à l'étranger.
Alors, Apollos nous disait que ces décrets suscitaient une vraie contestation. Visiblement, l'affaire embarrasse la présidence. Est-ce que le président récemment élu, Félix Tshisekedi, peut abroger ces décrets ?
Selon certaines sources gouvernementales, il sera difficile d'abroger ces décrets étant donné qu'ils vont octroyer aux membres du gouvernement à venir les mêmes avantages. Dans l'entourage du chef de l'État, on se montre très discret sur la question. Certains membres du cabinet demandent simplement à tout le monde de patienter, d'être patient parce qu'il y a une décision qui devrait être prise incessamment.
Ah, décision prise incessamment. Donc on suivra évidemment quelle sera la décision de la présidence congolaise. Apollos, a-t-on répondu à vos questions ?
Merci bien à vous, Apollos Dakouri depuis Daloa. Merci.
Merci surtout à Patient Ligaudy, l'un de nos correspondants à Kinshasa en République démocratique du Congo. Appelez-nous, exprimez-vous, 339 693 693 70. N'oubliez pas dans 20 minutes maintenant notre débat sur la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire après la décision de la CPI de libérer sous condition l'ancien président ivoirien et son ancien ministre de la jeunesse, ancien chef des jeunes patriotes. 339 693 693 70. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Cotonou, au Bénin, et vous avez des questions sur le Brexit.
Exactement, Anne. Theresa May a annoncé son intention de négocier à nouveau avec l'Union européenne. Comment compte-t-elle rouvrir les pourparlers avec Bruxelles pour que, alors que l'Union européenne affirme que l'accord n'est pas renégociable.
Ah, ça c'est une excellente question que vous posez, Gilles, et que tout le monde se la pose. Catherine Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, vous êtes spécialiste du Royaume-Uni. Theresa May veut effectivement renégocier l'accord de retrait conclu avec l'Union européenne. Seulement voilà, Gilles le rappelait, les Européens refusent toute nouvelle négociation. Alors concrètement, quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui de la première ministre britannique ?
Il y a la seule marge de manœuvre qu'a Theresa May, c'est de rester ferme sur cette position britannique qui est de demander la réouverture des négociations en disant que sinon le Royaume-Uni sortira le 29 mars sans accord. Alors ça n'est pas véritablement une marge de négociation, en fait c'est vraiment actuellement entre le Royaume-Uni et l'Union européenne deux positions opposées qui s'affirment. Effectivement d'un côté l'Union européenne qui dit on ne rouvrira pas les discussions sur le traité, et le Royaume-Uni qui dit il faut rouvrir parce que sinon on sort sans accord. Et comme personne ne veut de cette sortie sans accord, je pense que c'est actuellement la seule chance, entre guillemets, que Theresa May peut avoir de rouvrir des négociations avec l'Union européenne.
Oui. Alors justement, sortir sans accord, en deux mots, et on retrouve Gilles dans un instant, il a une deuxième question à vous poser, sortir sans accord, ça représente quel danger pour l'Union européenne ? On peut comprendre du côté britannique, mais du côté des Européens ?
Mais du côté des Européens, la sortie sans accord, ce serait difficile aussi parce que si on remet en place des droits de douane, si on remet en place des formalités aux frontières, ça complique le commerce, ça complique les flux d'échanges de marchandises, de services, la circulation des citoyens de l'Union Européenne vers le Royaume-Uni et des Britanniques vers l'Union Européenne. Donc ça complique la situation et la vie de tout le monde et personne ne souhaite cela. En fait, le Royaume-Uni serait plus perdant que l'Union Européenne dans cette affaire, mais pour l'Union Européenne aussi, ça aurait des conséquences négatives à très court terme. Et puis, avoir un pays qui sort de l'Union européenne, un grand pays comme le Royaume-Uni de plus, qui sort de l'Union européenne juste avant les élections européennes et qui sort dans une situation chaotique, ça serait aussi très difficile à gérer, je pense, pour l'Union européenne.
Gilles, votre deuxième question.
Oui, la députée britannique a invité Theresa May à reprendre la clause du backstop. En quoi consiste cette clause ? Et pourquoi est-ce si important pour les députés britanniques cette clause ?
Ah oui, on entend beaucoup parler de cette clause du backstop. On parle également de filet de sécurité. De quoi s'agit-il, Catherine Mathieu ?
Alors, cette clause est dans le traité actuel garantit que si l'on... Parce qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni étant membre de l'Union européenne, il n'y a pas de frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni. Quand le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne, il faudra remettre en place des frontières, en particulier en ce qui concerne justement le commerce de marchandises. Et le retour d'une frontière poserait des grands problèmes en Irlande. L'absence de frontières garanties est un élément important de la paix entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Donc les Européens ont tenu à mettre dans l'accord de retrait cette clause de backstop qui assure que si on ne trouve pas le moyen d'éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, il n'y aura pas de frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et donc en fait, la seule façon aujourd'hui trouvée par les pays de l'Union Européenne pour éviter le retour autour de cette frontière, c'est d'avoir ce filet de sécurité qui dit que le Royaume-Uni resterait membre de l'union douanière de l'Union européenne une fois sorti de l'Union européenne. Et c'est cette clause qui pose problème à ceux au Royaume-Uni qui souhaitent une sortie franche et nette du Royaume-Uni de l'Union européenne, parce que si le Royaume-Uni reste dans l'union douanière, il devra continuer à appliquer les réglementations de l'Union européenne. Il ne pourra pas décider de traiter, de mettre en place des traités commerciaux avec d'autres pays hors de l'Union européenne. Donc en fait, le Royaume-Uni serait toujours un peu dans l'Union européenne. Et ce que souhaite aujourd'hui négocier, renégocier Theresa May, c'est la possibilité de changer ce backstop, c'est-à-dire ou bien de pouvoir mettre d'autres types de contrôles aux frontières qui seraient basés sur des éléments technologiques, dont aujourd'hui l'Union européenne a dit ces techniques n'existent pas.
Oui.
Et l'autre possibilité qu'aurait Theresa May, ce serait de demander à minima que ce backstop ne joue que de façon limitée, peut-être sur une période de 5 ans, ou qu'au moins le Royaume-Uni puisse décider d'en sortir seul. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un filet de sécurité complet qu'a mis en place l'Union européenne dans le traité, qui fait que le Royaume-Uni ne pourrait pas du tout sortir de l'union douanière. Ça serait l'Union européenne qui seule pourrait donner son accord pour que le Royaume-Uni...
Et les partisans du Brexit dur ne veulent surtout pas en entendre parler. Merci Catherine Mathieu, toujours aussi pédagogue. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à Gilles qui nous appelait de Cotonou. Nous avons contacté ce matin Sidi Yansané, l'un des correspondants de RFI en Côte d'Ivoire. Bonjour Sidi.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Des questions concernant le retour il y a quelques jours en Côte d'Ivoire de plusieurs militants pro-Gbagbo après plusieurs années d'exil. Tim, soyez le bienvenu.
Ouais, merci beaucoup, Juan. Bonjour.
Vous êtes à Kinshasa, nous vous écoutons.
Exactement. Voici ma préoccupation. En Côte d'Ivoire, 54 militants pro-Gbagbo rentrent au pays après l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé par la CPI. Alors, la première question, ces opposants avaient peur de rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils ont plus de garanties maintenant sur leur sécurité?
Ah, c'est une bonne question. Sidi Yansané, il faut d'abord préciser que ce n'est pas la première fois que des exilés rentrent au pays.
Oui, ça c'est important de le préciser. À l'origine, ils étaient environ 300 000 militants et sympathisants de Laurent Gbagbo à avoir choisi l'exil pendant et surtout après la meurtrière crise post-électorale de 2010-2011. Les uns fuyant les combats et les violences, les autres craignant de subir la justice des vainqueurs. Et donc ils se sont dispersés dans les pays voisins, à savoir le Ghana, le Togo, le Mali, le Libéria et puis la Guinée. Et d'après le Haut Commissariat aux réfugiés, il y a déjà plus de 270 000 de ces exilés qui sont rentrés au pays. Alors la particularité du dernier convoi en date, hein, donc celui de jeudi dernier, où il y avait une cinquantaine de personnes qui sont rentrées, c'est qu'il transportait 6 ministres et figures du régime de Laurent Gbagbo, dont le ministre de l'Intérieur, Émile Girieoudou. Et c'est ça cette particularité, c'est qu'on a des cadres du FPI de Laurent Gbagbo et du régime qui décident de revenir au pays.
Oui, alors Tim le disait à l'instant, ses opposants craignaient de rentrer en Côte d'Ivoire, notamment pour des raisons de sécurité. Quelles garanties ont-ils obtenu?
Mais disons que, oui, c'est vrai que nombre de ces Ivoiriens hésitaient encore à revenir au pays, et généralement, les arguments avancés pour justifier ce refus de rentrée, c'est d'abord, c'est avant tout la peur de représailles, et puis aussi le manque d'informations concernant leur réinsertion sociale, professionnelle, la réinsertion de ces exilés. Donc il faut dire que beaucoup craignent d'avoir été spoliés aussi de leurs biens, ou même d'être arrêtés tout simplement, par les autorités ivoiriennes dès leur retour, et ce, malgré l'amnistie générale qui a été accordée par le président Alassane Ouattara en août dernier. D'ailleurs, dans le cas précis du dernier convoi de ces exilés, ils affirment avoir fait le choix du retour, surtout suite à l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la CPI. Et ils disent vouloir participer à l'effort de paix et de réconciliation qu'ils jugent désormais possible avec un retour de leur champion. Donc ils estiment qu'une fois que Gbagbo a été acquitté, c'est que la sécurité est assurée pour eux.
Oui, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé acquittés il y a maintenant un peu plus de 2 semaines par la CPI et libérés sous condition vendredi dernier, l'occasion pour nous de lancer le débat dans 10 minutes sur la réconciliation nationale. Justement, cette réconciliation est-elle désormais possible maintenant que ces deux hauts responsables du FPI sont libres certes, mais sous condition, maintenant que des proches de l'ancien président, on en parlait à l'instant avec Sidi Yansané, sont rentrés au pays après 8 ans d'exil au Ghana. Vous nous appelez, on a envie de vous entendre, 33 9 693 693 70, les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité, et on en parle dans 10 minutes.
bien, 180.